Ésaïe chapitre 7, versets 10 à 16. L'Emmanuel. Le Seigneur ajouta cet autre message pour Ahaz. Demande au Seigneur ton Dieu de te donner au fond du monde des morts ou là-haut dans le ciel un signe de son appui. Mais Ahaz répondit, « Non, je ne demanderai rien. Je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. » Alors Ésaïe lui dit, « Écoutez-moi, toi et ta famille, les descendants de David, on dirait que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des hommes et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettre au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. L'enfant sera nourri de crème et de miel jusqu'à ce qu'il soit capable de refuser ce qui est mauvais et de choisir ce qui est bon. Avant même que le petit garçon soit en âge de faire cette différence, le territoire dont les deux rois te font si peur sera abandonné par ses habitants. Amen. La semaine passée, nous avons parlé de Jean-Baptiste et de la vie qu'il menait dans le désert. Pour ceux qui n'étaient pas là, je ferai un petit rappel. Jean-Baptiste avait un style de vie assez rudimentaire, surtout au niveau alimentaire. Il ne mangeait que de criquets et du miel. Et à la lumière du péricope que nous avons ce matin, nous avons un peu plus d'éclairage sur ces types d'aliments, mentionnés en particulier le miel et la crème de lait. Ici, on parle de crème de lait ou du lait fermenté et aussi du miel. Cela a une signification particulière en cette période de l'Avent. Oui, nous sommes toujours dans la période de l'Avent, même si nous fêtons aujourd'hui la fête de Noël pour notre paroisse. Le prophète annonce la naissance d'un enfant qui sera habité par Dieu ou par les dieux, selon la traduction littérale. Parce que « elle », c'est, ça vient de « Elohim », les dieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le roi Ahaz était sous la menace de deux royaumes voisins sous l'Empire assyrien. Et face à cette menace imminente, le prophète s'est adressé à Ahaz. Demande un signe à l'Éternel. Et quelle était sa réponse au verset 12 ? Non, je ne demanderai rien. Je ne provoquerai pas le Seigneur, comme si il était si sage que ça, ce roi. À première vue, ceci semble être une déclaration louable. Car on pensait qu'il ne voulait pas tenter Dieu, il ne veut pas demander un signe. Mais derrière cette phrase, en vérité, c'est le contraire qui se cache derrière ce semblant de sagesse. En réalité, il avait tellement peur de l'Empire d'Assyrie et qu'il avait déjà envisagé de chercher un arrangement avec l'oppresseur. Et en plus, en écoutant la solution que propose le prophète, attendre la naissance d'un enfant, ça prendra du temps. Là, je suis pressé. J'ai besoin d'une solution urgente, maintenant. Pour un enfant, il faut attendre au moins 9 mois pour sa naissance. Ensuite, il doit grandir. Donc, il a rejeté cette solution. La menace est présente, la menace est imminente. Et tu me demandes d'attendre encore la naissance de cet enfant ? Non, non merci. Et je reprends l'expression ici, crème de lait et du miel. Si on fait une étude d'occurrence, c'est-à-dire voir les autres textes où on trouve cette expression-là dans la Bible, nous pouvons remonter jusqu'à Abraham et Sarah. Rappelons-nous lors du passage des trois anges qui venaient pour annoncer à Abraham que Sarah sera enceinte et aura son enfant l'année suivante. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Abraham avait ordonné à ses serviteurs de préparer à manger pour les trois visiteurs avec du lait fermenté. Et au moment où les anges avaient annoncé la naissance de l'enfant qui va venir, qu'est-ce qui s'est passé ? Sarah rit en elle-même. N'importe quoi. Et c'est un peu la même réaction qu'avait le roi Ahaz. Quoi ? Attendre encore 9 mois ? Une réaction ironique. C'est quelque chose d'irrationnel, d'illogique et de non-sens. Alors là, le roi Ahaz est à la recherche d'un allié, d'un secours de taille pour faire face à son ennemi. Et là, tu m'annonces un enfant. Je cherche un roi et tu m'annonces un bébé. Or, le prophète lui annonce la naissance d'un enfant qu'il va falloir encore attendre. Ensuite, on continue. Si on continue l'étude de l'occurrence, lorsqu'Israël fut esclave en Égypte, il a envoyé Moïse en les annonçant qu'ils vont les ramener vers la terre ruisselant de lait et de miel. C'était la promesse. On retourne vers la terre promise, la terre ruisselant de lait et de miel. On retrouve à nouveau l'expression. Et enfin, dans Deutéronome 32, 14, il y a le chant de Moïse où on racontait comment l'Éternel a conduit son peuple dans le désert. Lui, Dieu, les a nourris avec du lait fermenté des vaches, du lait frais des brebis et les allaités avec le miel des rochers. Deutéronome 32, 14. Voyez-vous, dans toutes ces occurrences, on peut constater que cette expression, alors, est une expression biblique, technique même, qui est liée avec une promesse, avec la naissance d'un enfant tant attendu, ou de la promesse promise, la terre promise, pendant des siècles. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce texte, c'est que l'Éternel, c'est lui qui fait tout. Et c'est là que ça bloque. Ahaz cherchait une solution. Qu'est-ce que je dois faire ? Le Seigneur dit, tu ne fais rien. C'est moi qui ferai tout. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est moi qui donne la promesse. C'est moi qui réalise la promesse. Tu ne fais que attendre. Le roi Ahaz, lui, voulait entreprendre des actions. Mais voilà, la réponse qu'il a obtenue est décevante. Il faut le savoir aussi. Le roi Ahaz, il avait eu tellement peur des deux rois qui le menaçaient. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est agenouillé devant les idoles de ces pays-là en sacrifiant son fils unique. Et de cette façon-là que Dieu lui a dit, « Je vais te donner un autre enfant. » Donc vous voyez, lui, il se justifiait devant Dieu, « J'ai pas besoin de cela. » Or, c'était une façon de lui dire, « Mais pourquoi tu as assassiné ton enfant ? Tu cherchais une solution vers un autre Dieu, pour plaire à un autre Dieu, et tu as même allé à sacrifier ton fils, alors je vais encore te donner un autre fils. » C'est bizarre comme sanction. Il a tué son fils et Dieu lui donne encore un autre fils. Si on était à la place de Dieu, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Mais voilà, Israël a toujours détesté cette dépendance totale à son Dieu. Avec ces nourritures mentionnées là, ici, dans ce texte, on voit que Israël était toujours un pays, une population nomade. D'où même le nom hébreu. Hébreu veut dire celui qui passe. Donc c'est une population nomade. Une population qui n'a rien depuis le début. Et jusqu'à maintenant, cette population énerve le monde entier. C'est un peuple qui n'a même pas un bout de terrain. C'est Dieu qui lui a donné tout ça. L'Éternel se présente comme étant une nourrice qui prend en charge, qui donne du lait et qui donne du miel. Donc, Israël était toujours comme un petit enfant devant l'Éternel. Et Israël ne voulait pas de ça. Non, je veux être un adulte. Je ne veux plus que tu me considères comme un enfant. Ça suffit. Il voulait toujours s'émanciper vis-à-vis de son voisin. Rappelez-vous, on a besoin d'un roi, ça suffit, on n'a plus besoin d'un prophète, on n'a plus besoin d'un grand prêtre. Nous voulons un roi comme les autres. C'est pour cette raison qu'arrivé à un certain moment, ils en avaient marre. Ils avaient marre d'être chouchoutés par leur mère Adonai. Je dis bien leur mère Adonai. Souvent, on veut toujours entendre le Père. Mais si Dieu se révèle en mère nourricière, qui donne le lait et le miel, il voulait s'émanciper. On veut un roi. Et voyez ici le réflexe, chercher refuge auprès d'un roi, comme si Dieu était insuffisant pour eux. Chers frères et sœurs en Christ, nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons aussi? Est-ce que ce n'est pas la même chose qui s'est passée lors de la naissance de l'enfant de Dieu, l'Emmanuel? N'est-ce pas ce qui s'est passé lors de l'annonce de la naissance de Jésus à Bethléem? Le roi Hérode et tout Jérusalem tremblaient. Quand un enfant est né, tout Jérusalem tremblait. Est-ce que l'Évangile est une bonne nouvelle finalement pour le monde ou est-ce une menace? Regardez bien, pour Ahaz, la naissance de son fils devient une menace pour lui. Il est devenu fou. Il voulait garder le pouvoir pour lui seul. Il ne pensait même plus à son fils qui devait lui succéder. Non, moi d'abord. Une bonne nouvelle devient une menace. Et je me rappelle ici un humour, une histoire que le pasteur Germain Mailleux nous a raconté lors du colloque de l'Union Reformata à Uccle. Il nous a raconté, après la primaire des Républicains en France, il y avait un journal de la Libération qui a mis un gros titre « Au secours, Jésus revient !» quand François Fillon a été élu. « Au secours, Jésus revient !» Pourquoi ils ont mis ce titre? Parce que voilà, ils avaient peur qu'il y ait une tendance actuellement dans le monde où les gens commencent à rechercher des repères religieux. La religion qui a été mise dehors, finalement le monde s'est rendu compte, mais on a besoin de ça. Et si vous avez vu le score qu'avait eu ce candidat, c'était impressionnant. La France qui se dit un pays laïque, qui ne veut pas de Dieu dans sa société, a cette soif-là. C'est incroyable. Et étonnant de voir qu'il y a une crainte de la part des agnostiques sur une possibilité d'une soif du peuple de la chrétienté. C'est juste un exemple pour vous dire que la bonne nouvelle que nous proclamons n'est pas forcément une bonne nouvelle pour beaucoup d'autres. Ça fait peur. Cet enfant qui est né à Bethléem fait peur au monde. On fait tout pour le faire taire. Mais jusqu'à maintenant, on entend toujours sa voix. Et en revenant à ces nourritures mentionnées dans le texte, le miel et le ferment de lait qui sont des nourritures de subsistance de nomades, on peut en déduire que Dieu a pris soin de son peuple dans toute sa vie, depuis Abraham jusqu'à la captivité. La vie d'Israël était une vie de nomades. Ils n'avaient rien, pas de terre, mais Dieu les a tout donnés. Ils n'avaient même pas un nom. Ils n'avaient pas de nation, ils n'avaient pas de terre. Israël n'existerait pas sans leur Dieu. Donc quand on dit « Dieu est avec nous », ça veut dire que nous existons parce que Dieu existe. Voilà ce qu'il veut dire. « Tu n'es rien, Israël, sans moi. » Et dans leur errance, l'Éternel les a pris soin en les préservant dans le désert, avec des nourritures que personne n'a jamais encore vues, d'où le nom de la manne. La manne veut dire « c'est quoi ?» Ça. C'est quoi ça ? Et pour nous aussi, le dessein de Dieu pour nous est le même. Il veut que nous nous dépendions de lui seul. Il ne partage pas sa gloire avec un autre Dieu. D'où le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi-même. Et à ce propos, voilà ce qu'il dit dans Ésaïe. De moi-même, j'agirai. Comment me laisserai-je profaner ? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Chers frères et sœurs en Christ, ce premier commandement, qui est interprété par certaines personnes comme une dictature d'un Dieu qui veut s'imposer, non, il est unique, il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Mais pour lui, son omnipotence, tout son pouvoir, il veut l'utiliser pour nous faire du bien. Il veut s'occuper totalement de nous et que nous ne fassions que garder le silence. Comme dit l'Exode, le Seigneur combattra pour vous et vous, vous garderez le silence. Est-ce qu'on a la capacité de garder le silence? Parfois on peut dire, non, laisse-moi faire Seigneur. Non, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Il nous demande de garder silence. Noël arrive, c'est le silence, l'enfant est né, l'enfant est présent et c'est Dieu qui fait tout. Acceptes-tu que Dieu prenne en charge ta vie et tu ne fais que regarder. Tel est le message de ce jour de Noël. Amen.